France Culture.
Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Mythes et dragons, une histoire tout feu, tout flamme. Qu'est-ce qu'un dragon ? Un animal fabuleux, sans aucun doute, une sorte de monstre, avec des griffes de lion, des ailes d'aigle et une queue de serpent, mais pas seulement, car le dragon est multiforme selon les imaginaires, les cultures, les civilisations. Un mythe qui, si nous en remontons la généalogie, nous conduit au premier pas de l'humanité.
Dans son envol, le serpent se déroula. Il devenait de plus en plus long. Il s'étira tellement qu'à la fin, sa tête et sa queue touchaient à la terre, de chaque côté de l'horizon.
Le mot dragon donc vient du grec drakon, qui vient d'un verbe derkomai, qui signifie regarder fixement.
Alors, vous l'avez vu ? C'est un gros dragon, un petit dragon ?
On ne l'a pas vu, mon oncle.
De toute façon, il n'est même pas là, alors...
Et ça, c'est un phacochère ?
Corps de serpent, tête de porc.
Il brandit sa lance avec vigueur, frappe le monstre avec force et l'abat par terre.
Nous devons envoyer un vrai dragon.
Quoi ? Mais je suis un vrai dragon !
Tu n'es pas digne d'être à cette place.
Et pour nous parler des dragons dans le cours de l'histoire aujourd'hui, il nous fallait bien deux Julien. Julien Rousseau, bonjour.
Bonjour.
Conservateur en chef du patrimoine, responsable des collections Asie au musée du Quai Branly, Jacques Chirac. Vous avez co-dirigé le catalogue de l'exposition Dragons au Quai Branly, qui est donc un catalogue et un livre qui se lit autour des dragons avec de très riches illustrations. Et l'autre Julien, c'est Julien Duy. Bonjour.
Bonjour.
Julien Duy, vous êtes docteur en histoire, chercheur affilié au laboratoire d'anthropologie sociale au Collège de France, à l'école des hautes études en sciences sociales, à l'école pratique des hautes études et au CNRS. Dites donc, ça nous forme un dragon tout ça. Et Dragon, généalogie mondiale d'un mythe, c'est votre ouvrage publié chez Armand Collin. Julien Duy, dès les premières pages de votre ouvrage, vous faites un sort à une idée répandue qui était d'ailleurs la mienne. Ah bah les gens ont commencé à imaginer qu'il existait des dragons quand ils ont trouvé des gros os d'animaux préhistoriques, ils ne savaient pas ce que c'est, ils se sont dit que ça devait être des dragons. Vous montrez déjà que cette idée-là est beaucoup plus complexe.
Oui, effectivement, ça fait partie des grandes idées de l'imaginaire populaire. L'idée que les Homo sapiens, un peu partout au travers du monde, auraient trouvé des ossements, puis auraient associé ça à des créatures gigantesques et forcément des dragons. Sauf que ça pose une série de problèmes. D'abord, le premier problème, c'est à partir de quelques ossements. Je connaissais un petit peu l'histoire de la paléontologie, la manière dont les dinosaures ont changé de forme. Il suffit de voir entre le premier Jurassic Park et ce qu'on en fait aujourd'hui, des dinosaures. Ça voudrait dire qu'ils auraient été aussi brillants que nos plus brillants chercheurs avec les technologies actuelles, ce qui n'est pas impossible, mais c'est à ceux qui avancent cette thèse de la défendre. Ça, c'est un premier point. Puis un deuxième point, c'est qu'en fait, il y a une mythologie, des mythes qui réunissent les dragons à travers le monde. C'est-à-dire qu'on va trouver une sorte de continuum mythologique qui va relier l'Afrique, par exemple, à l'Asie du Sud et à l'Australie, qui va lier l'Eurasie du Nord à l'Amérique du Nord. Et ça, si ça avait été des découvertes, si le dragon avait été imaginé à partir de découvertes fortuites d'ossements, on ne devrait pas avoir ces récits en fait, qui relient les différentes découvertes. En fait, le plus probable, c'est qu'il existait une mythologie bien antérieure du dragon et que les humains, en découvrant des ossements, se sont dit « Tiens, ça correspond aux mythes, c'est donc que les mythes devraient avoir une part de réalité ».
Oui, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut saisir la chose. Julien Rousseau, au moment d'étudier ces dragons, et notamment les dragons chinois, là aussi, nous sommes sur une complexité de la définition même de ce qu'est un dragon. Vos dragons chinois, à quoi ressemblent-ils ? Nous l'avons un peu en imaginaire.
Oui, tout à fait, une complexité, même, je dirais, une méconnaissance, puisque les premières images arrivent à une période qui est antérieure aux premières sources écrites, aux premières descriptions, puisqu'on est dès le néolithique. Donc là, je rejoins ce que disait Julien tout à l'heure, évidemment, la croyance au dragon relève de la mythologie, d'une dimension probablement psychanalytique assez universelle, anthropologique, etc., qu'on connaît finalement très mal, mais en tout cas qui est bien antérieure avant la découverte des dinosaures, c'est évident. Et donc en Chine, on est aux alentours du 4e millénaire avant notre ère, à l'époque où apparaissent les premières représentations de ce qu'on pourrait appeler des proto-dragons, en fait des créatures hybrides qui font penser aux dragons. voilà, desquels on rapproche du dragon, bah, pour des raisons purement formelles, en fait, parce qu'il ressemble un petit peu au dragon. Et puis c'est bien plus tard que des premiers textes, les premières iconographies vont vraiment se fixer et décrire ce qu'est le dragon en Chine, qui n'est pas finalement un dragon, hein, le concept de long en chinois, voilà, c'est quelque chose qu'on traduit par ce mot de dragon, mais qui est en fait tout à fait autre chose.
Et puis la taille déjà diffère énormément, l'apparence de ce dragon, les dragons peuvent prendre toutes les formes. Julien Duy, au moment de réfléchir à la généalogie mondiale d'un mythe dragon, vous recensez déjà tous les mythes autour des dragons. Et là, mais ils sont nombreux, mais c'est presque impossible d'ailleurs de tous les mettre tellement ils sont nombreux, divers, et puis il faut savoir ce qu'est un dragon.
Alors, il y a deux parties dans la question. D'abord, il y a la diversité de la mythologie qui est associée effectivement au dragon, que j'appelle le dracon, hein, parce que le mot dragon renvoie à un imaginaire qui est effectivement très occidental. Et dracon, on l'a entendu tout à l'heure, hein, ça renvoie avant tout à un serpent. Le dragon, chez les Grecs, par exemple, c'était un serpent. Donc, il y a toute une mythologie, donc avec des mythes qui rattachent, hein, par exemple, le serpent arc-en-ciel, qui va rattacher plusieurs continents, hein, sous la forme d'un continuum. Et il y a la définition formelle du dragon, parce que pour pouvoir étudier un animal, une créature, bah, il faut déjà se mettre d'accord sur la définition. Et là, on est bien embêté, parce que quand on regarde le dragon, il y a des dragons à barbe, il y a des dragons à chevelure, il y a des dragons à oreilles d'antilope, hein, si on va chez les Khoisan, il y a des dragons à cornes, et puis voilà, il y a plein de types de dragons différents. Alors, je me suis arrêté sur la définition de Vladimir Propp, qui fait du dragon une chimère avec une partie ophidienne et quelque chose d'autre qui se rajoute. Donc toujours avec la mythologie aussi qui fait le lien. Et Vladimir Propp disait, oui, mais ça n'existe pas, par exemple, en Australie. Si, ça existe en Australie. Ces grands dragons chimériques accompagnés de cette même mythologie se déploient à travers le monde.
Voilà, on les trouve absolument partout, ces dragons. Pour les dragons chinois, nous évoquions la variété des formes, mais à l'intérieur même de cette civilisation chinoise, il y a des formes innombrables de dragons.
Bien sûr, il y a de nombreux récits aussi, puisque le dragon, on parlait tout à l'heure des textes dès l'époque des premiers empires, en fait, hein, dès le début de la Chine impériale, donc apparaissent des textes, mais un petit peu avant, dans le livre des mutations, par exemple, au 3e siècle avant notre ère. Mais par la suite, ce dragon va évoluer à la fois en tant que motif impérial, hein, motif lié aussi à l'art officiel et toute l'idéologie poétique qu'il peut avoir. À la cosmologie aussi, il va être repris à la fois dans le taoïsme, dans le bouddhisme. Il va se mélanger aussi dans le cas du bouddhisme avec le naga indien, donc un serpent mythique local indien. Voilà, ce qui rend encore plus complexe cette dimension multiforme et polysémique du dragon. Et puis aussi, là encore, il faut le rappeler, le dragon, il évolue aussi beaucoup à travers des récits populaires qui, évidemment, ne sont pas fixés par des textes. Et puis aujourd'hui encore, il évolue à travers la fiction et toute une culture populaire qui contribue à le rendre encore plus polymorphe, hein, en fait.
Au moment de chercher le dragon, il y a bien sûr les textes, il y a les représentations, on l'entend bien ici, la difficulté de définir un dragon. Julien Duy, si le dragon, par son étymologie, par ses origines, nous rapporte au serpent, tout serpent n'est pas dragon ou tout dragon est serpent? Parce que ce n'est pas exactement des synonymes, ces deux mots-là.
Alors là, ça touche au cœur de mon travail. En fait, la mythologie du dragon, quand on étudie, donc que ce soit en Chine, au Japon, en Europe, en Amérique, on se rend compte que ce qui est mis derrière le terme de dragon prend ses racines dans une mythologie, mais qui est une mythologie du serpent. C'est-à-dire que c'est une mythologie ophidienne, et on peut montrer la continuité, en fait, de la mythologie du serpent. Donc ce que je fais en utilisant, on en reviendra sans doute plus tard, en utilisant des statistiques, en utilisant des cartes de répartition, montrer qu'il y a un substrat, et à partir de ce substrat va se construire dans chaque culture une forme particulière. Donc par exemple, en Eurasie, on sait qu'il y a le combat contre le dragon. Le combat contre le dragon, on va le retrouver en Eurasie, on va le retrouver en Amérique du Nord. Donc c'est probablement on ne le retrouve pas en Afrique, on ne le retrouve pas chez les aborigènes d'Australie. C'est quelque chose qui est assez précis, hein, dans l'espace. Donc c'est pas un archétype, c'est pas psychanalytique ni psychologique. Et ce substrat, vu la diffusion, on peut le remonter à peu près à la fin du paléolithique, à la fin du paléolithique supérieur, vu en plus, quand on regarde les récits, ils sont très complexes, ils se rejoignent, puis une forme de continuité. Et à partir de ce substrat, eh bien, il y a des choses qui vont être construites. Et là, indépendamment, alors, toujours avec des principes d'échange, effectivement, hein, le dragon chinois échange avec le naga échange avec le dragon européen, il y a une sorte de grand mélange. Mais à partir de ce substrat, il va y avoir des dragons différents qui vont se créer. Ça explique à la fois l'aire de ressemblance qu'il y a entre les dragons, par exemple, eurasiatiques, parce qu'il y a quand même beaucoup de points communs qu'on ne retrouve pas ailleurs qu'en Eurasie. Et puis, ça explique aussi les différences, parce que chaque culture s'approprie, en fait, la créature, va garder la structure mythologique, mais va l'adapter aux nécessités culturelles, aux nécessités locales, aux nécessités politiques.
Julien Duhu, vous étiez venu dans le cours de l'histoire pour une histoire de religion disparue, mythe préhistorique, les premiers humains avaient-ils des dieux? C'était à l'occasion de la publication de votre ouvrage L'aube des mythes, quand les premiers sapiens parlaient de l'au-delà, une émission à écouter sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Vous venez d'évoquer votre démarche, l'utilisation de statistiques pour approcher les mythes. Donc, que je comprenne bien, vous faites la recension de tous les mythes des dragons, vous trouvez des points communs, des différences, c'est bien cela. Et après, par un système de logiciels que je mets au pluriel, parce qu'il y en a plusieurs, vous essayez de reconstruire cette généalogie, c'est le sous-titre de votre ouvrage Dragon.
Voilà, c'est encore plus complexe que ça, parce qu'on ne peut pas s'arrêter à un corpus, parce qu'un corpus est limité forcément par les biais de celui qui les rassemble. Donc c'est un travail qui a été fait sur de très nombreux corpus, certains que j'ai créés, d'autres qui ont été empruntés à d'autres chercheurs, qui ont codé à leur manière également. L'objectif étant de voir si, par l'application des outils statistiques, en créant ces arbres phylogénétiques de mythes, on arrive au même résultat. Et oui, on arrive au même résultat, c'est-à-dire que ça... À titre d'hypothèse, et j'insiste, j'avais déjà insisté la dernière fois, à titre d'hypothèse, ça fonctionne bien. C'est-à-dire que, à partir de corpus très différents, on obtient des arbres très similaires, et ces arbres vont suivre les premières migrations de l'humanité. Et la structure même de l'arbre, une fois qu'elle est établie, permet de reconstruire, en partant des récits que l'on connaît aujourd'hui, des motifs que l'on connaît aujourd'hui, nœud par nœud, en termes de probabilité, l'état antérieur de tel ou tel dragon, par exemple. À quoi ressemblait le dracon au début de l'Eurasie? Alors, c'est des probabilités, ça s'appuie sur plusieurs corpus, c'est comparé, c'est des statistiques, c'est réfutable, du coup, hein, c'est ça qui est l'avantage, c'est qu'on peut donner, on peut essayer de prouver le contraire, mais ça permet d'avoir un aperçu de remonter loin, très loin dans le temps, jusqu'aux premières sorties d'Homo sapiens d'Afrique, puisque l'arbre, en fait, reprend l'intégralité des premières migrations de l'humanité.
Donc, le mythe du dragon trouve ses origines, ou en tout cas, l'hypothèse est que le mythe du dragon trouve ses origines au moment où Sapiens sort d'Afrique. Ça nous conduit à quel moment de l'histoire de l'humanité?
Le substrat, en fait, c'est plus le substrat qui a donné le dragon, parce qu'il faut toujours se méfier du terme dragon, parce qu'il est très empreint de culture, du dracon. On n'a pas de... Par exemple, quand on étudie la biologie, on a l'horloge moléculaire. Quand on étudie la linguistique, on a la glottochronologie, même si c'était fortement remis en question. Pour la mythologie, on n'a pas ces outils-là, parce que l'usage des statistiques appliquées à la mythologie, c'est finalement assez récent. Donc c'est une science qui se découvre encore et qui avance chaque année. Donc on est obligé d'utiliser des éléments extérieurs. Donc on peut s'appuyer sur les datations qu'on connaît, donc vers moins 65 000, moins 70 000 ans, la grosse sortie d'Afrique, avec une première migration le long des côtes pacifiques. On arrive par le Sahul, hein, vous savez, l'ancien continent qui reliait la Nouvelle-Guinée et l'Australie. On arrive jusqu'en Australie. Et puis après, on est en pleine période de glaciation. Ça veut dire que les humains ne peuvent pas monter, en fait, vers le nord de l'Eurasie. Et lorsque les glaces vont se mettre à fondre, l'humanité va conquérir le nord de l'Eurasie. Et il va y avoir un peuplement en Amérique, un premier peuplement, parce que voilà, il y a les glaces en Amérique du Nord qui va toucher l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. C'est intéressant parce que la mythologie l'avait découvert avant la génétique, qui lie tout ce qui est Sahul, Asie du Sud-Est avec l'Amérique du Sud. Et puis, il y a des vagues ultérieures qui viennent notamment d'Eurasie du Nord avec une autre mythologie qui vont toucher l'Amérique du Nord. Et du coup, en étudiant la répartition des mythes, on se rend compte qu'il y a des nappes de mythes qui correspondent justement à ces grandes migrations et qu'on peut modéliser.
La glottochronologie, hein, c'est l'étude des langues au sens où le moment où des langues divergent
en fait,
et là.
On part du principe que certains mots de base évoluent lentement et à une certaine vitesse. Et en calculant l'écart sur ce vocabulaire de base entre deux langues, on estime le moment où ça a divergé. Mais plus on avance, c'est le propre de la science, plus ça devient compliqué.
En tout cas, il est certain que ce mythe du dragon, et j'utilise ce mot-là pour être le plus simple possible, trouve un substrat préhistorique. Il est là, il se développe par la suite.
Voilà, c'est ça. En fait, il y a cette base qu'on peut démontrer par plusieurs manières, de plusieurs façons différentes. Alors l'idée, par exemple, dans ce substrat de base hein, de l'Out of Africa, des sorties d'Afrique, on a l'idée que le dragon aurait été un arc-en-ciel. Ça, on va le retrouver que dans la partie sud. Hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas du tout retrouver cette idée plus au nord. Ça suit les premières migrations de l'humanité. L'idée qu'un grand serpent entoure la Terre ou supporte la Terre. On va retrouver l'idée que le dragon est lié à l'arrivée de la mort, ou encore qu'il a cette capacité d'être tout petit, puis de grandir ensuite. Bon, et une fois que ça s'est établi, une fois encore, c'est des statistiques, ben on le vérifie avec de très nombreuses sources différentes, et il y en a d'autres hein, qui s'en sont rendus compte avant. L'apport de ce livre, c'est juste que ça fait une sorte de systématisation et de théorie générale, en donnant une sorte d'architecture à l'ensemble. Mais par exemple, l'idée que le serpent arc-en-ciel existait depuis les premières sorties d'Afrique, c'est quelque chose qui est extrêmement ancien. Ça date de la deuxième moitié du XXe siècle. Ce n'est pas moi qui l'avançais. J'ai juste apporté ma petite pierre qui est la démonstration statistique.
Et elle est importante, cette pierre-là aussi, dans la réflexion que nous pouvons avoir aujourd'hui autour des dragons.
Le mot dragon vient du grec drakon, qui vient d'un verbe derkomai, qui signifie fixer, regarder fixement. Il y a déjà, tout de même, semble-t-il, une allusion au serpent. Car s'il y a un animal qui a le regard fixe, c'est bien le serpent, pour la bonne raison qu'il n'a pas de paupières. On est très frappé quand on regarde un serpent par la fixité de son regard. Mais petit à petit, étrangement, on trouve même en Grèce l'appellation d'être dracontopode, ce qui signifie des êtres qui ont des pieds de dragon. Or, appeler certains êtres d'après les pattes d'un être qui n'a pas de pattes, c'est un peu bizarre. Ça fait un peu penser à cette phrase célèbre de Ponson du Terrail, « Ses mains étaient froides comme celles d'un serpent ». Et dans la mythologie germanique, dans les contes des frères Grimm, on dit « Les serpents rampent par terre, mais quand ils ont des ailes, on les appelle dragons ».
Ben voilà, ça c'est la définition que nous apporte Bernard Velmont, qui est un écrivain. Il venait en 1979, là, au moment où il s'exprime sur France Culture, faire paraître les derniers dragons d'Afrique. Julien Duy, l'association du dragon avec du serpent, ça nous approche le plus près possible des origines du mythe du dragon.
Alors, une fois encore, c'est complexe. Hein. Les statistiques n'épuisent pas la richesse du réel, mais de ce qu'on peut en reconstruire, hein, de ce qu'on peut montrer, une fois encore, au croisement, pas que les statistiques, l'archéologie, l'étude des aires de répartition, la linguistique, etc., oui. La réponse brève, ce serait oui. Ça nous rapproche du substrat le plus primitif du dragon.
Julien Rousseau, c'est ce que vous nous disiez, hein, pour les dragons chinois, il faut remonter au néolithique, et là aussi, on va trouver ce substrat-là, avec la difficulté des sources. Hein. La description du dragon, ça c'est une chose, l'évocation d'un être qui pourrait être un dragon, pourquoi pas, mais une petite sculpture, un petit dessin, mais là aussi, il y a beaucoup de projections de notre propre réflexion sur les dragons, sur ce qui est proposé par le passé.
Oui, tout à fait. Déjà, rien que le terme dragon, hein, on le disait tout à l'heure, bah, ça correspond plus ou moins à ce qu'on appelle long en chinois, donc qui est un concept spécifique, voilà, qu'on essaye de retracer bah, via des sources archéologiques, des objets, des représentations. Voilà, la plus ancienne représentation qu'on ait, c'est peut-être ce qu'on appelle les cochons dragons. Alors, je mets des guillemets parce que, voilà, on les appelle comme ça, tout simplement parce qu'ils ont des sortes de groins, voilà, un nez aplati qui fait penser à celui d'un cochon. Et là, on est sur des représentations vraiment petites, hein, là, qui ressemblent aussi plus à, on parlait tout à l'heure, la capacité de transformation du dragon. Ces premières représentations, enfin, supposées ou hypothétiques, voilà, que sont les cochons dragons, ils sont toutes petites, hein, un petit peu comme des vers à soie, finalement. Et puis, plus tard, on verra que le dragon est aussi grand comme l'arc-en-ciel. Alors ça, c'est une image qui est très commune en Chine et pertinente aussi, puisque le dragon, c'est le lien avec le ciel, hein, au cœur d'une triade sur laquelle repose en fait toute la cosmologie chinoise et qui est composée par l'homme, la terre et le ciel. Voilà, et ce lien en fait entre voilà, différents éléments de cette triade est particulièrement lié au dragon, à son pouvoir et au fait qu'il a été aussi approprié par les empereurs, voilà, qui en ont fait un petit peu l'emblème aussi de leur mandat céleste, puisque l'empereur en Chine a une fonction à l'origine quelque part chamanique, hein, un petit peu de mise en relation entre les hommes, le ciel, les divinités et les puissances naturelles aussi. Le dragon, c'est avant tout le nuage, les nuages, la pluie. Hein, de la fin de l'époque des Zhou, donc vers le 3e siècle, on associe le dragon à ce qu'on appelle les souffles célestes, ce qui sera plus tard le Qi, en fait, cette énergie vitale universelle qui met en marche le monde, en fait. Hein. Voilà, et le dragon va incarner cette force, voilà, à la fois ambivalente, hein, le caractère un petit peu imprévisible, ni bon ni mauvais, hein. En fait, il est un petit peu au-delà de ça. Il a l'image des forces de la nature qui sont à la fois vitales mais dangereuses, voilà, source de vie comme de mort. Et juste, j'ajoute sur le serpent, voilà, le dragon chinois.
Un petit cochon, ça ressemble pas à un serpent quand même.
Il va devenir le dragon chinois n'a pas besoin d'aile pour voler, voilà, il n'aura jamais d'aile. Il va être plutôt. Il va se déplacer comme un serpent, bah, à travers les éléments, hein, aquatiques, célestes ou terrestres, mais voilà, il n'a pas d'aile.
Julien Duy.
Je vais juste rebondir sur une chose, parce que c'est très intéressant, cette histoire de cochon-dragon. Il y a un lien, en fait, à travers l'Eurasie, qu'on ne trouve pas seulement en Chine, entre le dragon et le cochon. On va le retrouver chez les Celtes, par exemple. On va le retrouver en Inde, hein, sur des textes qui sont très, très anciens. Et où soit il y a une sorte de sanglier, hein, gigantesque qui va prendre le rôle vraiment d'un dragon, hein, qui va retenir l'eau, qui va falloir affronter. Soit le serpent se transforme en sanglier, ou inversement, le sanglier se transforme en serpent. Et ça, cette association entre un suidé ou un cochon d'ailleurs, entre un suidé et un serpent, bah, on le retrouve partout en Eurasie quand on parlait, hein, de substrat fondamental. Et ça répond à une question qui est intéressante, parce que finalement, les humains ne sont pas stupides, ils voient bien que les dragons n'existent pas, ils peuvent interpréter les nuages, hein, comme des dragons. Et ça permet de résoudre la question de savoir pourquoi est-ce qu'on parle de dragons et s'ils existent, où est-ce qu'ils sont. Et en fait, il y a cette idée que les dragons peuvent se transformer en autre chose. Il y a des transformations dans un sens, dans l'autre. Et c'est quelque chose qu'on retrouve ailleurs. Hein. Par exemple, chez les Khoisan, les peuples d'Afrique australe, le serpent arc-en-ciel, il existe, hein, un grand serpent, mais on ne le voit pas, parce qu'il se transforme en autre chose. Alors parfois, on voit un herbivore, et cet herbivore, bah, ça va être le serpent arc-en-ciel. Donc il y a cette idée, voilà, ce lien primitif avec le cochon, trouve une explication à partir du moment où on élargit, et toujours cette idée, un substrat de base et une particularisation. D'ailleurs, le cochon est associé symboliquement à la fertilité et à l'eau également, ce qui fait qu'il y a une charge symbolique qui est associée également au dragon.
Ils sont pervers, ces dragons, parce qu'ils se planquent en plus. Alors déjà, on a du mal à les définir, mais si en plus on a du mal à les trouver, sachant qu'il faut ajouter une chose, ces dragons sont hybrides.
Les gens peignent la forme du dragon avec une tête de cheval et une queue de serpent. De plus, ses cornes ressemblent à celles d'un cerf, sa tête à celle d'un chameau, ses yeux à ceux d'un démon, son cou à celui d'un serpent, son ventre à celui d'une palourde, ses écailles à celles d'une carpe, ses griffes à celles d'un aigle, la plante de ses pieds à celle d'un tigre, ses oreilles à celles d'une vache. Sur sa tête, il y a quelque chose comme une large éminence, appelée Qimu. Si un dragon n'a pas de Qimu, il ne peut pas monter au ciel.
Agar, Agar. Dragon, qui accompagne la description d'un dragon par Wang Fu, essayiste historien, poète chinois. Nous sommes au 1er siècle, 2e siècle après Jésus-Christ. Alors, il est étonnant, ce dragon présenté ici, parce que nous y voyons associer plein d'éléments de différents animaux.
On en voit associé, bah, dans la théorie, hein, telle qu'on l'a entendu ici, dans les textes, le plus souvent à 9 éléments animaux, voilà, c'est pas un hasard parce que le 9 en chinois c'est un homophone d'infini. Voilà, le dragon, par son caractère hybride, bah, c'est un petit peu un résumé du monde, des éléments. Et donc l'art chinois, bah, dès ses origines, bah, crée du surnaturel. Hein. Le surnaturel, c'est vraiment constitue vraiment un répertoire iconographique du premier art chinois qu'on voit sur les bronzes, etc. Donc c'est quelque chose, enfin un principe qui est assez important au départ des premières images, enfin du moins ce qu'on en connaît. Et donc ces neuf parties animales, ben, on l'a entendu, c'est à la fois le serpent, le cerf, les bois de cerf étant aussi un emblème aristocratique. Voilà des éléments qui ne sont pas choisis au hasard, puisqu'ils voilà, renvoient à des animaux particulièrement puissants ou prestigieux. Voilà. Mais par la suite, bah, le dragon il va parfois s'éloigner aussi de ses descriptions classiques. Hein. Et on ne va pas forcément chercher tous fidèlement ces neuf parties animales sur tous les dragons.
Julien Duy, ce dragon tel que nous pouvons l'imaginer, et là encore je simplifie, mais au moment où l'humain sort d'Afrique, Sapiens emporte avec lui ses mythes, un serpent, plutôt gros j'imagine, qui est le dragon, je simplifie. Peut-on imaginer que au fil de l'évolution des cultures, des civilisations, ici on y ajoute quelques éléments d'un autre animal, ici on l'imagine ainsi et on lui attribue certaines vertus, et c'est comme cela que ces mythes des dragons se répandent avec des échos sans cesse entre les cultures et les civilisations.
Oui, oui. Lévi-Strauss disait un mythe, on le transforme en croyant le répéter. Un mythe a une vraie force, en fait, un peu comme un soldat de plomb, vous savez, on le pose, il tend à ne pas bouger, et ça se déforme très très longtemps. Mais ça se déforme, hein, l'imaginaire humain est tel que, notre mémoire n'est pas éternelle, et deux, on modifie des choses, on adapte un récit de façon qui ne s'adapterait pas à la société qui le véhicule, ben, il s'avérerait plus à grand chose. Donc c'est ce principe d'apparition, de maintien, puis de disparition et de remplacement qui permet la construction des arbres phylogénétiques. Après, le dragon, pour pouvoir perdurer dans le temps, ben, il va prendre les habits locaux. Il continue d'ailleurs aujourd'hui. Si jamais je prenais l'image du dragon tel qu'il était imaginé par les premiers Homo sapiens et que je le plaçais directement en Chine, ça n'aurait pas tenu. Pourquoi ? Parce que les préoccupations des personnes, ça ne correspond pas. En plus, il faut bien voir que derrière un récit, on peut mettre beaucoup de sens qui sont différents. C'est-à-dire que quand on prend un récit, hein, je parle du, imaginons le combat contre le dragon, ça peut être aussi bien une volonté de maintenir le monde dans un état stable, ça peut être une volonté de viabiliser le monde, ça peut être une symbolique de la destruction des forces du chaos dans l'univers, et en fait chaque société dans un même récit va mettre autre chose. Alors pour ce qui concerne la forme même du dragon, comme le substrat c'est l'ophidien, oui, nécessairement c'est une chimère ophidienne, donc de serpent, oui, il y a une base qui va rester la même, mais après ça va s'adapter parce que le rythme plastique hein, de la représentation n'évolue pas à la même vitesse que le des récits. D'ailleurs, quand on parle de dragon, vous ferez l'expérience, tout le monde a une image en tête, mais hors des textes théoriques, allez chercher dans les contes, dans les mythes, la description exacte du dragon. Parfois on voit qu'il a plusieurs têtes, parfois on voit qu'il a qu'une tête, mais la description exacte, on part du principe que tout le monde est au courant, que tout le monde le sait. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une vraie plasticité hein, dans la représentation qu'on en fait. Il y a la structure de base, puisqu'on ce qu'on rajoute, bah, exactement comme ce qui se passe en Chine.
C'est un petit peu, oui, bah, la fonction des mythes, des religions, dire une banalité, mais c'est vrai qu'ils représentent des zones d'incertitude, en fait, de l'existence ou de l'expérience humaine. Donc forcément, étant donné qu'ils sont liés à quelque chose qu'on ne peut pas représenter ou anticiper, dans le cas des forces naturelles, bah forcément, ce sont des entités mouvantes, hybrides, des frontières. Hein. Il y a la question des frontières aussi qui est importante. On parlait tout à l'heure des bronzes antiques. Hein, en Chine, justement, ces créatures surnaturelles hybrides, elles résident dans ces frontières où elles les protègent. Soit elles servent à communiquer avec le divin, donc entre le ciel, la terre, des entités invisibles. D'autres peuvent s'interposer aussi entre le monde des morts, le monde des vivants. On a ces gardiens de tombes aussi en Chine à l'Antiquité qui sont aussi un petit peu comme des dragons hybrides. Voilà, et qui sont des créatures des frontières, bah, qui ont ce côté à la fois surnaturel, parce que justement elles sont liées à ces frontières, assez occultes finalement, au sens premier.
Julien Duy, d'ailleurs, ces frontières peuvent faire réfléchir à l'idée de frontières que nous avons dans l'esprit, hein, ces frontières mentales qui sont sans cesse renversées, dépassées. Les mythes des dragons suivent le peuplement de notre planète, sachant que de là où ils partent, ils ne restent pas figés. C'est cela aussi, c'est pas parce qu'un groupe humain a un mythe des dragons qu'il va s'installer ailleurs et emporte le mythe, que là où il se trouvait à l'origine, ce mythe reste figé.
Oui, bien sûr, le récit. Alors, faut surtout se retirer de la tête l'idée d'hommes, par exemple, en Afrique, de peuples qui auraient préservé une mémoire primordiale de l'humanité. C'est aussi aberrant que de dire qu'ils avaient le génie de pouvoir reconstruire des dinosaures à partir de quelques ossements. Hein. C'est deux erreurs qui seraient fondamentales. Oui, bien sûr que ça évolue. De toute façon, c'est modélisé. Hein. Ce qu'on peut montrer, c'est que certains mythes perdurent, mais ils ne perdurent pas chez tous les peuples. Parfois, il faut travailler par aire culturelle, c'est-à-dire qu'il y a des peuples qui vont l'avoir, d'autres à côté qui vont le retirer. Et puis, une fois encore, le récit, même si la structure du récit se maintient, le sens qu'on met derrière le récit change profondément. Parce que ce n'est pas tout, hein, de pouvoir montrer qu'il y a une généalogie des dragons, qu'il y a des liens statistiquement qu'on peut établir statistiquement, que les corpus se rejoignent, que toutes les structures se retrouvent. On pourra reconstruire en fait le squelette d'une mythologie, on ne pourra jamais savoir le sens qui est derrière. Et en l'espace, ne serait-ce que de quelques générations, hein, regardez l'image du dragon aujourd'hui, le sens du dragon change en profondeur. Aujourd'hui, si on faisait un dessin animé où le prince va secourir la princesse, et la princesse, un peu naïve, en passive, se laisse secourir, ça ne passerait plus, parce que c'est plus des récits qu'on peut répéter. En fait, l'imaginaire du dragon, et la structure reste, tend à la permanence. Par contre, l'imaginaire du dragon est en permanent renouvellement.
Avec tant d'images que nous avons en tête, et Julien Duy, vous avez eu raison de le souligner, si on nous demandait de donner notre image mentale à la prononciation du mot dragon, ce mot dragon couvrirait plein de réalités. Tout le monde a des dragons différents, et en Occident, il y a cette idée de combat qui a été repris, bien sûr, dans une lecture religieuse.
La jeune fille est donc sur la route à la rencontre du dragon. Or, Saint-Georges passait par là, et la voyant pleurer, il lui demanda ce qu'elle avait. « Bon jeune homme, lui répondit-elle, vite, monte sur ton cheval, fuis, si tu ne veux pas mourir avec moi. » Georges lui dit « Je ne m'en irai pas avant que tu ne m'aies expliqué ce que tu as. » Or, après qu'elle l'eut instruit totalement, Georges lui dit « Ma fille, ne crains rien, car au nom de Jésus-Christ, je t'aiderai. » Elle lui dit « Bon soldat, mais hâte-toi de te sauver, ne péris pas avec moi. C'est assez de mourir seul, car tu ne pourrais me délivrer, et nous péririons ensemble. » Alors qu'il parlait ainsi, voici que le dragon s'approcha en levant la tête au-dessus du lac. La jeune fille, toute tremblante, dit « Fuis, mon seigneur, fuis vite !» À l'instant, Georges monta sur son cheval, et se fortifiant du signe de la croix, il attaque avec audace le dragon qui avançait sur lui. Il brandit sa lance avec vigueur, se recommande à Dieu, frappe le monstre avec force et l'abat par terre. « Jette, dit Georges à la fille du roi, jette ta ceinture au cou du dragon, ne crains rien, mon enfant. » Elle le fit et le dragon la suivait comme la chienne la plus douce.
En 1972, Claude métralisait ici Saint-Georges qui combat le dragon. C'était dans Les Chemins de la Connaissance sur France Culture, Julien Duy. Ça, c'est un classique de notre imaginaire occidental. Le dragon, le preux chevalier, ou ici en l'occurrence Saint-Georges, terrasser le mal. C'est ça aussi, le dragon en Occident représente le mal. Mais c'est une idée à renverser sur une lecture plus générale du mythe du dragon.
Effectivement, déjà, le dragon, hein, l'idée que ça représente Satan, que ça représente le mal, qui doit être vaincu par un héros sauroctone, hein, c'est-à-dire que tueur de dragons, c'est une idée qui est très très récente au vu de l'histoire de l'humanité. Il y a tout un problème qui est lié à l'axiologie. Qu'est-ce qu'on met derrière le dragon ? Il y a l'idée qui est liée aussi au bien et au mal tel qu'on le conçoit aujourd'hui, parce que notre lecture du mal est une lecture qui est liée au monothéisme. À partir du moment où on imagine le dragon comme pourvoyeur de vent et de tempête, on a besoin du vent aussi, parce que le vent apporte les nuages. Est-ce que c'est une créature forcément qui est maléfique ? Donc, effectivement, en Occident, il y a ce choix de cantonner pendant longtemps hein, le dragon vers l'adversaire, qui a changé d'ailleurs récemment, vers l'adversaire à vaincre. Mais ça pouvait être aussi l'adversaire à apprivoiser. En Chine, le dragon, il peut être craint lorsqu'il suscite des déluges, mais il est aussi attendu quand il y a une sécheresse. Il y a cette idée de besoin de contrôle. Pareil, l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, on retrouve cette, donc une mythologie qui est une mythologie qui est liée aux premières sorties d'Afrique, avec des choses, des points communs. Hein. Par exemple, l'arc-en-ciel, ce serpent arc-en-ciel sort d'une termitière ou d'une fourmilière, hein, que ce soit en Afrique, en Asie du Sud ou dans le Sahul. Donc voilà, il y a plein de petits points communs. Quand on voit l'arc-en-ciel, c'est un serpent, d'accord. Il y a aussi une mythologie qui indique qu'il ne faut pas montrer du doigt l'arc-en-ciel parce que c'est dangereux, qui accompagne ça. Mais l'arc-en-ciel, c'est aussi le symbole de la fin du déluge. C'est-à-dire, c'est le moment où la pluie s'arrête et parfois, la pluie, il y en a trop. Donc, si on prend une échelle large, hein, très large, au niveau du dragon, on ne peut pas l'associer toujours au mal. Hein, parce que ne serait-ce que parce que la conception du bien ou du mal est une, que nous avons n'est pas la conception que l'on a ailleurs sur la planète.
En Chine, les dragons sont-ils méchants ?
Ils sont en fait ambivalents. Voilà, ils sont potentiellement dangereux, mais ils sont ni gentils ni méchants en fait. Hein. Voilà, comme on le disait, ils contrôlent des forces naturelles, voilà, en particulier la pluie dont on a besoin évidemment. Voilà, ils ont ce pouvoir. Parfois, certains récits racontent des dragons qui peuvent un petit peu abuser de leur pouvoir, qui peuvent même devenir tyranniques, des dragons qui demandent des sacrifices, qui provoquent des sécheresses, etc. À ce moment-là, certaines histoires racontent, par exemple, que l'empereur céleste, l'empereur de Jade, peut les rappeler à l'ordre et les rappeler à leur fonction de bon ordre naturel, en fait, du monde. Voilà, mais on ne peut pas dire vraiment qu'ils soient gentils et méchants, mais ils ont ce côté toujours un petit peu effrayant, évidemment, qui est lié aussi à leur pouvoir de maintien voilà, des forces de la nature.
Puis il y a une efficacité de la représentation du dragon. Et là, je parle vraiment de l'iconographie ou de la sculpture. Voir un dragon, ça provoque quelque chose aussi, parce qu'il peut être terrifiant, il peut être bienveillant aussi, mais en tout cas, il ne laisse pas indifférent.
Voilà, bah c'est un petit peu ce qui a fait le succès du dragon. Hein. Certainement, c'est un motif qu'on retrouve en Chine, mais pas seulement dans toute l'Asie orientale, à la fois en architecture, sur la céramique, la peinture, etc. Un petit peu sur tous les supports, parce que son caractère justement hybride, assez graphique, fait qu'on peut le déployer voilà sur un petit peu n'importe quel support. Évidemment, toute sa profondeur historique, ses multiples niveaux de sens font que voilà, c'est un motif qui a été particulièrement apprécié par les artistes. Et puis, comme il représente aussi ce principe vital, on le disait tout à l'heure, ce qu'on appelle le chi hein, en Chine, donc c'est une énergie vitale qui est partagée à la fois par tous les êtres vivants et par les éléments naturels, puisque en Chine, il y a cette forte identité entre le fonctionnement même du corps humain et le fonctionnement de l'univers, hein, qui est lié aussi beaucoup à la médecine chinoise. Donc ce dragon, il représente un principe vital qui est lié à la fois à la pratique du pinceau, tous les arts du pinceau, la calligraphie, la peinture, qui traduisent en fait ce principe vital, cette authenticité et cette dimension vivante en fait, du sujet hein, qu'on a dans le tracé même, des caractères ou dans la peinture monochrome aussi de lettré, qui va naturellement prendre ce dragon vraiment comme un motif incarnant à la fois cette maîtrise du pinceau, du trait vivant pour les artistes, voilà, en faire un sujet aussi évidemment pour les arts impériaux, puisqu'on a ce dragon jaune impérial à cinq griffes assez tardivement à partir du XIIe siècle. Qui va vraiment représenter ce pouvoir impérial, souvent représenté par exemple sur les robes officielles aux côtés de la montagne, hein, un symbole un petit peu aussi immuable, un petit peu comme le pouvoir et universel aussi. Voilà, ce dragon jaune à cinq griffes va devenir aussi un motif récurrent et vraiment associé aux arts officiels.
Et puis moi j'y ajoute de la couleur avec l'arc-en-ciel.
C'était lors d'une vague de chaleur d'une gravité exceptionnelle. On étouffait littéralement. L'air chaud vibrait sur la prairie roussie. Les lacs et les rivières étaient à sec. Les sources taries. Bêtes et gens cherchaient un abri précaire à l'ombre des maigres feuillages. Les habitants d'un coin particulièrement touché se lamentaient. Hélas, nous en périrons tous. Ces lamentations émurent un petit serpent à écailles. Ce n'était pas un serpent ordinaire. Sortant de sa cachette, il s'adressa d'une voix humaine à ces gens désolés. Et ils en furent assez surpris. Le serpent leur dit tout de go : J'ai de grands pouvoirs magiques et j'ai décidé de vous venir en aide. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de me jeter dans le ciel. Je m'accrocherai au ciel avec mes écailles et en même temps j'y gratterai un peu de pluie et de neige à votre intention. La prairie là-haut est en glace bleue. Le sorcier ne souffla plus mot, mais saisissant le serpent qui s'était levé, il le lança rageusement vers le ciel, de toutes ses forces, comme pour s'en débarrasser à jamais. Dans son envol, le serpent se déroula. Il devenait de plus en plus long. Il s'étira tellement qu'à la fin, sa tête et sa queue touchaient à la terre, de chaque côté de l'horizon, tandis que son épine dorsale s'incurvait en suivant la voûte céleste. Il se trémoussait un peu pour gratter la glace du ciel avec ses écailles. Comme il grattait tant et plus, son corps se mit à changer de couleur, passant du rouge au jaune, au vert, au bleu, au violet. La glace du ciel commença à fondre, et les gouttes de pluie tombèrent sur la terre en ondées bienfaisantes.
Nous avons ici quelque chose d'hybride dans cette archive sur France Culture en 1992, le conte du serpent arc-en-ciel lu par Jean-François Pérignier. Alors, le serpent arc-en-ciel et ce conte nous conduisent chez les populations autochtones d'Amérique, mais la musique, elle, était complètement du côté de la Chine. Mais c'est pas mal parce qu'on parle des dragons, c'est hybride aussi, Julien Duy. L'arc-en-ciel ici joue un rôle important. On l'entend depuis le début de l'émission parce que la lecture de l'arc-en-ciel s'est associée au dragon ou au dracon, avec le cas comme vous l'utilisez. C'est aussi une explication du monde, le dragon. Ça explique les choses.
Voilà, la mythologie, de toute façon, fondamentalement, ça sert à expliquer pourquoi le monde est tel qu'il est. C'est pour ça qu'on a du mal aussi à s'en défaire, et c'est pour ça qu'aussi, au fond de nous, on a tous une mythologie. Simplement, c'est plus simple de voir la mythologie chez les autres que chez nous. Et quand on regarde le dracon à travers le monde, on se rend compte qu'il est souvent rattaché à des choses qui expliquent l'univers. On parlait de l'arc-en-ciel. On retrouve aussi cette idée qu'un grand serpent qui se mord la queue ou qui est sur le point de se mordre la queue entoure le monde. Et ni bien ni mal, s'il ne bouge pas très bien, il stabilise le monde. S'il bouge, on se retrouve avec des tremblements de terre. On retrouve cette idée aussi que la pluie s'explique par l'activité ou la tempête s'explique par l'activité d'un dragon. En fait, l'être humain a un grand point d'interrogation dans le cœur. C'est d'ailleurs une de nos caractéristiques. On a besoin d'explications. Même si on ne comprend pas, il faut qu'on ait une explication. Alors aujourd'hui, avec la science, on a des explications très très complexes. On a, sans avoir atteint le maximum, mais on commence à avoir une idée à peu près comment les choses fonctionnent. Mais il faut imaginer qu'à l'époque, lorsqu'on voyait un éclair et qu'on entendait le tonnerre, on ne comprenait pas les déplacements d'air, de masse chaude. Donc, on créait des récits. Et ces récits expliquaient tellement bien le monde, finalement. Souvent, on voyait ça, donc, juste pour revenir dessus, le tonnerre, c'est le bruit d'un grand oiseau, ça le retrouve partout en Eurasie du Nord, et en Amérique du Nord, c'est un grand oiseau qui va affronter l'éclair, donc un serpent. Et parce que cette histoire explique bien le monde, on va le conserver. Et de toute façon, même aujourd'hui, là aussi, l'être humain a besoin d'histoire, on conserve les histoires. D'ailleurs, regardez, même à l'âge adulte, on aime se bercer de mythes, on aime se bercer de récits, on en a besoin, et ce n'est pas parce que la science commence à expliquer le monde que pour autant on abandonne cette idée que les récits ne peuvent pas expliquer au moins une partie de l'univers qui nous entoure.
Avec, dans le cas de la Chine, une évidence sur la présence du dragon aujourd'hui encore. C'est-à-dire que même si le pouvoir a changé, même si les explications ont pu permettre de comprendre tant et tant de phénomènes, le dragon est toujours très présent.
Oui, c'est simple, le dragon existe, de toute façon. En Chine, ils ont toujours existé d'une manière ou d'une autre. Ils existent à travers les images, les représentations aussi. Alors la question des croyances, c'est toujours compliqué parce qu'on ne sait jamais ce que pensent les gens au fil des époques. Mais en tout cas, le dragon, voilà, comme on le disait, il participe à un système d'explication du monde qui a sa logique, sa réalité, son histoire aussi. Mais donc, dès l'Antiquité, les dragons existent. Ce sont eux mettent en action ce principe vital, voilà, qui est vraiment au cœur de toute une vision du monde. Certains récits historiques aussi, certaines chroniques, par exemple à la fin de l'époque des Ming, on raconte que des empereurs avaient vu des dragons un peu trop souvent rôder dans les nuages, tout simplement parce qu'ils allaient leur reprendre leur mandat céleste, donc peuvent marquer aussi des fins de règne, hein. C'est pas toujours un bon augure de voir les dragons. Voilà, en tout cas, ils ont existé, et puis encore aujourd'hui, à travers la fiction, voilà, on voit qu'ils se mélangent avec d'autres mythologies. On pourrait continuer aussi cette interprétation du dragon avec toutes ces créatures surnaturelles aujourd'hui qu'on trouve dans les fictions et qui s'inspirent plus ou moins du dragon.
Ah oui, il y en a partout des dragons. Parce que la fiction, vous le dites bien, les séries, Game of Thrones, Mulan chez Disney, il y a des dragons partout. Ces dragons-là, nous les imaginons au moment du Nouvel An chinois. Nous nous projetons avec des dragons, il n'y a pas de souci. Le dragon médiéval aussi, celui que terrasse Saint-Georges, nous l'imaginons avec ses griffes, ses ailes. Et il crache du feu. D'ailleurs, tous les dragons crachent-ils du feu? En Chine, ils crachent du feu aussi?
Non, ils ne crachent pas de feu.
C'est décevant.
Voilà, comme ça, un animal aquatique. Voilà, on pourra trouver certaines histoires locales, et puis aujourd'hui, plus récemment, on parlait dans la fiction, parfois on trouve, voyez, dans le détective D de Tsui Hark, par exemple, les rois célestes, on voit un dragon chinois qui se met à cracher du feu de façon très récente, voilà, mais c'est quelque chose qui n'est pas traditionnel.
Julien Duy, vous, au moment de réfléchir justement à tous ces dragons dans Dragon Généalogie Mondiale d'un mythe, avez-vous croisé des cultures qui n'ont pas de dragons? Là, je vous pose la question en négatif par rapport à votre étude.
Alors, en fait, tout est dans la définition, une fois encore, du dragon. Si on définit le dragon d'un point de vue purement eurasiatique, alors si, déjà, en Europe de l'Ouest, si on utilise notre définition du dragon, ça s'applique en Europe de l'Ouest. Si on élargit à l'Eurasie, ça va s'appliquer à l'Eurasie. Donc là, pour le coup, c'est vraiment une question de définition, un peu comme les côtes bretonnes. Quand vous regardez les côtes bretonnes, si vous voyez de très loin, vous voyez que c'est lisse, hein, donc le dragon, on peut le trouver partout. Et puis plus vous zoomez sur les côtes bretonnes, plus vous allez voir les détails. Et chaque fois, à chaque zoom, eh ben, vous allez définir quelque chose de différent. Alors je suis désolé, on a l'impression que je m'en sors avec une pirouette, mais vouloir sortir, donner une précision, être très très précis sur le dragon, ça revient par définition à exclure certaines choses. Or, l'approche en se basant sur la mythologie du serpent a pour objectif de lier les différentes cultures. Il y a une sorte de continuum et tout dépend de l'endroit où on met en fait le point d'arrêt. Hein, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a eu des discussions que j'ai trouvées, hein, d'érudits qui se disputaient sur la définition du dragon, et en fait ils parlaient de la même chose, c'est juste que le zoom n'était pas au même niveau.
Votre image sur les côtes bretonnes est d'une efficacité implacable. Il faut la réutiliser. Non, mais c'est vrai qu'ici, tout tient à la définition. Et dès lors, poser la question du dragon le plus étonnant que vous ayez pu croiser n'a pas grand sens, puisque ce serait juste un regard centré sur ce que nous sommes, c'est-à-dire l'Occident, l'Europe, qui nous ferait pas comprendre d'autres dragons. Mais placés de l'autre côté, ce sont nos dragons qui sont étonnants.
Mais il y a quelque chose dans la mythologie, hein. Il y a plusieurs niveaux au niveau de la mythologie. On est tous experts dans tel ou tel domaine, hein, telle ou telle région, parfois telle ou telle. Vraiment, ça peut être un peuple, ça peut même être une partie d'un peuple, hein, donc on a un zoom. Et puis, ça fait longtemps pourtant qu'on sait, hein, qu'on peut dézoomer, que Franz Boas, par exemple, disait, Gouillet de Charançay, qui était un Français, le disait au XIXe siècle. On dézoome et on se rend compte qu'en fait, nos mythes nous réunissent autant qu'ils nous séparent. C'est-à-dire que quand on regarde les mythes, il y a quelque chose de très fort, hein, parce que les langues, par exemple, entre le Nouveau Monde, l'Amérique et l'Eurasie, permettent difficilement de faire le lien. Par contre, les mythes permettent de faire le lien. On est des êtres de mythes, et ce partage de mythes, ce partage du dragon, fait que c'est une sorte de pont, hein, qui est tendu à travers à travers les peuples.
Et d'ailleurs, nous savons bien que quand les Occidentaux se rendent en Chine, quand il commence à y avoir de plus en plus de contacts, le dragon est accepté sans aucun problème. Ça fait même partie de l'imaginaire que l'on attend quand on reçoit des choses qui nous viennent de Chine.
Oui, c'est devenu un petit peu un poncif très tôt de la Chine. Aussi parce qu'à l'époque où des premières descriptions, si on voit des livres des merveilles de Marco Polo, on voit que le dragon est déjà un motif impérial officiel en Chine depuis longtemps. Donc il va représenter aussi l'empire chinois, et ça va être sa dimension peut-être politique aussi qui va faire, fortement être associé à la Chine en tant qu'empire.
Oui, et puis c'est vrai que pour des Occidentaux, voir un dragon jaune ou doré associé au pouvoir, ça choque pas tant le dragon est présent dans l'héraldique. Donc il y a une compréhension. Je vais vous faire écouter là encore une archive où il y a une mise en relation entre le dragon occidental et le dragon chinois.
L'Occident a peut-être une stratégie dangereuse avec le monstrueux. C'est, je crois, Malraux qui fait parler, dans La Tentation de l'Occident, un occidental et un chinois. Et le chinois dit « Vous avez eu tort de vouloir vaincre et exclure les monstres. Nous, nous préférons apprivoiser nos dragons. » Et qu'on le veuille ou non, en Occident, on se méfie des monstres et on n'a pas trouvé encore une façon de les apprivoiser tout en les éloignant quand même. Parce que même en Orient, le dragon peut être redoutable. Et d'ailleurs, il y a des bons et des mauvais dragons. Il y a des luttes entre les dragons. Disons qu'en tout cas, chez nous, le monstre est plutôt ce sur quoi on veut acquérir un pouvoir. Mais avec des nuances d'ailleurs entre le héros qui tue le monstre, et au contraire, la sainte qui met une ceinture autour du cou du monstre et puis qui en fait presque une sorte d'animal familier, il y a déjà une différence. Imaginez par exemple qu'on puisse se promener dans la ville avec son petit centaure apprivoisé ou avoir sa petite sirène dans son aquarium qui vient vous faire un bisou le soir. C'est bien.
Gilbert Lascaux, le romancier dans Les Nuits Magnétiques sur France Culture en 1994. Ici, Julien Duy, ça vous plairait, vous, de vous balader dans les rues avec un petit dragon? Non, mais l'évocation ici de notre rapport au monstre aussi permet de saisir des différences d'approche sur la figure du dragon.
Oui, alors, pour la première partie, oui, alors plutôt à dos de dragon, ça permettrait d'éviter les embouteillages et les problèmes des transports en commun. Cette axiologie, oui, change. Ce qu'on dit, en fait, depuis le début, c'est que cette structure du dragon va s'adapter et va changer au fur et à mesure où les sociétés évoluent. On parlait tout à l'heure des réadaptations modernes. Quand on regarde la littérature aujourd'hui, c'est plus donc le vaillant, le héros qui va libérer la princesse tuée par le dragon. C'est soit la princesse qui va s'allier avec le dragon pour se débarrasser du chevalier. Ça peut être la princesse qui va libérer le prince contre le dragon. Voire ça va être la princesse qui va demander au dragon de brûler le prince parce qu'elle ne lui convient pas. Il y a cette idée que les dragons... qui était l'adversaire, représente en fait parfois dans les livres pour enfants souvent la colère et c'est réutilisé. Donc ça veut dire, sauf que l'adversaire extérieur devient l'adversaire intérieur, le dragon prend même une personnalité puisque maintenant il existe certains romans où dont les héros sont les dragons et les adversaires c'est les humains. Alors le schème général, c'est-à-dire le principe d'opposition qui doit être médié, etc., se retrouve. C'est-à-dire qu'on retrouve cette structure qui est héritée. Et d'ailleurs, honnêtement, on ne pourrait pas comprendre le dragon actuel si on n'a pas en arrière-plan, dans un coin de son esprit, les premiers récits sur les dragons. Mais ça évolue. Ce qui fait que, au fur et à mesure, on va vers plus d'égalité entre les sexes. L'image du dragon évolue et reflète cette évolution de la société. Et il y a quelque chose d'assez formidable dedans, parce qu'en l'espace de deux générations, on a vu le dragon La Belle au bois dormant de Disney, complètement se transformer et prendre un tout autre visage.
C'est pertinent à ce que vous nous dites là, parce qu'effectivement, ce dragon occidental qu'il a fallu dégommer pendant des siècles aujourd'hui change de figure. Et Julien Rousseau, en Chine, il n'a jamais été question justement de dégommer le dragon, parce que ce n'est pas l'ennemi absolu, le dragon.
Oui, bah c'est intéressant de voir effectivement que la figure du dragon évolue aussi avec les rapports sociaux, les changements de la société. Et puis, il est logique aussi que le dragon évolue avec le rapport de l'homme à la nature aussi, hein, puisqu'il y est lié depuis ses origines. Et donc, le dragon continue d'évoluer en Chine et dans les mythologies d'Asie orientale, je dirais de manière plus générale. Il est toujours le maître des cieux, mais il évolue aujourd'hui dans un monde dont le dérèglement est lié aussi à la main de l'homme, hein, directement, d'une nature dont le rapport a un petit peu changé, ce qui est directement influé par l'activité humaine. Et donc on retrouve des dragons toujours avec cette ambivalence, mais parfois, si on regarde du côté de la science-fiction au Japon, par exemple Godzilla, qui est dont le nom est une déformation de King Kong, en fait, un gorilla. Voilà, c'est pas directement un dragon, mais il s'inspire un petit peu du dragon. Il a ce caractère aussi dangereux, évidemment, puisque Godzilla, il dormait, il était en gestation dans un œuf sous les océans, et puis suite à la bombe atomique, au risque nucléaire, il s'est réveillé. Il est devenu un monstre destructeur. Grâce au combat en fait que les hommes vont mener contre ces monstres destructeurs, ressouder en fait l'humanité pour construire un monde meilleur avec une vision finalement assez positive. Ces dragons en fait vont se mélanger avec tout un imaginaire contemporain mondialisé en fait en quelque sorte. Mais ils vont être ce qu'on pourrait appeler finalement des aliens. Alien, si on prend l'étymologie d'alien, c'est un étranger. En fait, c'est une créature étrangère qui peut avoir un lien plus ou moins direct avec des créatures locales anciennes et mythologiques, donc qui ont ce caractère assez ancien. Mais en même temps, ils vont se mélanger avec quelque chose d'inquiétant et qui va être lié au fait de la perte de maîtrise aussi, de changement de rapport au monde, finalement, contemporain.
Nous sommes partis avec les premiers humains qui quittent l'Afrique et un mythe peut-être lié à un serpent géant et nous arrivons à la bombe nucléaire et à Godzilla. Non, mais parce que c'est cela aussi, Julien Duy, et vous l'avez dit avec beaucoup de modestie, tout cela, c'est une approche, c'est une démarche qui permet d'avancer des hypothèses, de les confirmer et de montrer à travers l'étude statistique des mythes combien il est possible de se plonger dans la profondeur des temps. C'est ça aussi qui compte, c'est l'avancée de la recherche à travers l'utilisation de nouveaux outils.
Oui. Et puis, c'est pas tant de la modestie que de la prudence, parce que le propre de la science, c'est que ça avance par essai et réfutation. Et le but, c'est de prêter le flanc à la critique, proposer des idées, prêter le flanc à la critique pour pouvoir progressivement avancer vers toujours plus de connaissances et toujours plus aussi, parce que derrière, il y a quand même un soubassement philosophique, finalement, de liens entre les peuples de la planète.
Merci vivement à tous les deux d'être venus dans le cours de l'histoire. Dragon, c'est un ouvrage publié par le Quai Branly sous votre direction, Julien Rousseau avec Adrien Bossard. Et Dragon, Julien Duy, c'est publié chez Armand Collin, Généalogie mondiale d'un mythe. Merci beaucoup à vous deux.
Merci.
Prochain épisode dans le cours de l'histoire. Fascinante sirène, histoire de peur et de séduction.
Son visage est nu.
Anna Mouglali, sirène dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Anna Holweck à la technique Anthony Thomasson, émission préparée par Jeanne Delacroix, Raphaël Laloum, Jeanne Copet, Sidonie Lebeau et Mayou Nguizhou. Le cours de l'histoire est à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.